Chapitre 12. J'ose à peine avouer le sentiment qui s'empara de mon âme à l'époque de cet affreux malheur, sentiment qui fut presque aussi fort en moi que le chagrin dont nous étions tous accablés en songeant à notre chère Lady Ludlow. Peut-être cela tenait-il à ce que l'esprit s'irrite et s'altère quand la santé est mauvaise, et jamais la mienne n'avait été moins bonne. Le fait est que je fus horriblement jalouse pour la mémoire de mon père quand je vis tous les signes de douleur que suscitèrent la mort du comte. Tout le village fut en deuil, toute la paroisse changea ses habitudes parce que sa seigneurie venait de mourir dans un pays éloigné. Elle, qui n'avait jamais rien fait pour personne de la commune. Mon père avait passé les plus belles années de son existence au milieu de ses paroissiens. Il leur avait été dévoué corps et âme et n'avait rien eu de plus cher après sa famille que les membres du troupeau qui lui étaient confiés. Néanmoins, tandis que le son des cloches retombait sur notre cœur, dont il déchirait les blessures, nous entendions les bruits du dehors se mêler à nos sanglots. Les charrettes passaient, les affaires suivaient leur cours. On parlait, on criait dans la rue, on chantait dans le lointain. La vie active contrastait douloureusement avec l'immobilité de la mort. Elle pesait sur notre désespoir et crispait nos pauvres nerfs, mis au vif par ce coup douloureux. Même à l'église, à cette église dont mon père avait été le pasteur, bien que les coussins de la chaire fussent voilés de noir et qu'on aperçût quelques humbles signes de deuil parmi les fidèles, rien n'y paraissait changé. Qu'étaient cependant les œuvres de Lord Ludlow pour la paroisse d'Unbury, comparativement à ce que mon père avait fait pour la sienne? Il est probable que si j'avais pu voir Milady, je n'aurais pas éprouvé cette irritation jalouse, mais sa seigneurie demeurait enfermée dans sa chambre, dont les murailles étaient drapées de noir, y compris les volets. Elle y resta pendant plus d'un mois, n'ayant d'autre lumière que la clarté d'une lampe, et n'admettant auprès d'elle que Mistress Adam, dont les soins lui étaient indispensables. Au bout de 15 jours, Mistress Medlicott pénétra dans la chambre funèbre. Elle en revint tout en larmes, et nous dit avec des gestes de désespoir, en un langage mêlé d'allemand car l'anglais lui faisait défaut, que Milady, pâle comme un spectre au milieu de cette pièce funéraire, était assise auprès d'une lampe coiffée d'un abat-jour, et dont la lueur tombait sur la grande Bible de famille. Celle-ci était ouverte, non pas à quelques versets consolants, mais à la page où étaient enregistrées les naissances et les décès des 9 enfants de sa seigneurie. 5 d'entre eux étaient morts au berceau, victimes de la coutume barbare qui interdisait aux mères de nourrir leurs enfants. Les 4 autres avaient grandi, étaient devenus des hommes. Puis Urian avait quitté ce monde, et le comte Hughred Mortimer, le dernier de tous, venait de mourir. Milady ne pleurait pas, nous raconta Mistress Medlicott, rendue plus communicative par le chagrin qu'elle éprouvait. Lady Ludlow était calme et silencieuse. Elle restait indifférente à toutes les choses de la terre, si ce n'est aux honneurs que l'on devait rendre à la mémoire du défunt, et ne semblait vivre que pour entourer de toutes les pompes inimaginables les restes du dernier de sa race. À cette époque, les courriers étaient peu rapides et les formalités d'une lenteur désespérante. Il en résulta que les obsèques de Milord avaient eu lieu en Autriche avant que les instructions de Lady Ludlow fussent parvenues à Vienne. D'après Mistress Medlicott, il avait été question de déterrer la dépouille du comte et de la faire revenir à Hanbury, mais les exécuteurs testamentaires du défunt, ses parents du côté paternel, prétendirent que s'il était ramené en Angleterre, on devait le transporter à Monkshaven et l'inhumer avec les ancêtres de la famille Ludlow. Milady en fut profondément blessée et retira sa demande avant que la discussion eût dégénéré en débat inconvenant. Ce fut un motif de plus pour que le deuil du village empruntât toutes les formes possibles, afin de réparer l'injure que l'héritier du comte avait faite à Milady. Les cloches de la paroisse ne cessaient de faire entendre leurs glas funèbres. L'église était complètement tendue de noir. Des écussons avaient été mis dans tous les endroits où il y avait eu moyen d'en placer. Chacun parlait à voix basse, et personne n'eût osé rappeler qu'après tout, la chair de l'homme, voire celle d'un comte, le dernier des Hanbury, avait la destinée de l'herbe des champs, qui ne vit un jour que pour se faner et mourir. Jusqu'à l'auberge du village, qui avait fermé sa porte, elle aurait clos ses volets, si elle en avait eu à ses fenêtres. Les habitués s'y introduisaient furtivement par la cour et demeuraient silencieux et assoupis au-dessus de leurs gobelets vides. Miss Galindo, qui avait les yeux rouges à force d'avoir pleuré, me dit en fondant en larmes qu'elle avait trouvé Sally sanglotant sur sa Bible et faisant usage d'un mouchoir de poche pour la première fois depuis qu'elle était au monde. Le tablier dont la pauvre fille s'était servie jusque-là pour s'essuyer les yeux n'était plus d'étiquette lorsqu'il s'agissait de pleurer la mort d'un comte. Jugez un peu, s'il en était ainsi au dehors, de ce que cela devait être au château. Nous parlions tout bas, seulement pour les choses indispensables, et l'on n'essayait pas même de manger. Il est vrai que nous ressentions si vivement la douleur de notre bien-aimée Lady Ludlow que nous fûmes plusieurs jours sans éprouver le moindre appétit. Je dois cependant avouer que notre chagrin ne tarda pas à s'affaiblir, à mesure que la chair se montra plus exigeante. Mais notre cœur n'en saignait pas moins, toutes les fois que nous pensions à Milady, livrée à elle-même dans cette chambre tendue de noir, assise auprès de cette lampe dont la lumière éclairait sans cesse la page funèbre qui portait le nom de ses trépassés. Combien j'aurais voulu qu'elle consentît à recevoir M. Gray. Mais c'était un évêque, disait Mistress Adam, qui seul pouvait approcher de Milady. Et personne au château n'avait assez d'autorité pour envoyer chercher un si haut personnage. M. Horner souffrait plus que nous encore de cet affreux événement. Il était trop dévoué à la famille des Hanbury pour ne pas être désespéré de la voir s'éteindre. En outre, il avait pour Milady plus d'affection qu'il n'en laissait paraître, et je suis persuadé qu'il prenait une part bien vive à la douleur de sa maîtresse. Puis l'état des affaires augmentait son chagrin et y mêlait une amertume que je ne saurais exprimer. Les exécuteurs testamentaires du comte lui écrivaient sans cesse, et jamais il n'avait déploré plus vivement cette fâcheuse hypothèque dont le patrimoine des Hanbury était grévé au profit de la famille Ludlow. Tant que Milord avait été de ce monde, la chose lui importait peu. Des deux domaines appartenant au même héritier, il était assez indifférent que l'un fût le débiteur de l'autre, et Milady avait toujours refusé de prendre aucune mesure qui pût assurer le paiement du capital emprunté sur sa terre, ne pouvant pas, disait-elle, spéculer sur la mort de son fils. Mais aujourd'hui, qui n'était plus, et que décédé sans enfant le comte laissait son héritage à un avocat d'Édimbourg, il devenait cruel de supporter les charges contractées pour les terres de Milord et de ne pas transmettre à l'héritier des Hanbury le domaine de la famille tel que Milady l'avait reçu à la mort de son père. Cette situation fâcheuse désespérait le vieil intendant. Il s'était opposé de toutes ses forces à l'emprunt et avait en horreur le paiement des intérêts qui obligeait Lady Ludlow à certaines économies dérogatoires aux habitudes de la famille. Pauvre monsieur Horner, il était si froid et si roide, si bref et si tranchant que personne ne lui rendait justice. Miss Galindo fut la seule qui m'en parla jamais en termes affectueux et qui s'inquiéta de lui autrement que pour s'éloigner à son approche.
« Mon pauvre maître est malade, me dit un jour la vieille fille, 3 semaines environ après la mort du comte. Il reste des heures entières la tête appuyée sur sa main, et c'est tout au plus s'il m'entend quand je lui adresse la parole. »
Elle ne s'étendit pas davantage à cet égard, et je me préoccupai nullement de l'état de M. Horner. Lady Ludlow reparut enfin au milieu de nous et reprit sa vie habituelle. C'était maintenant une vieille femme, petite et frêle, et pliant sous ses lourds habits de deuil. Elle ne parlait point de sa douleur et n'y faisait pas même allusion. Elle était seulement plus tranquille, plus pâle, plus douce qu'autrefois, et avait les yeux obscurcis par des larmes que personne ne lui vit jamais répandre. M. Gray avait été reçu à l'expiration du mois que sa seigneurie avait passé dans la retraite, mais je ne crois pas que cette dernière lui eût dit un mot de ses chagrins. Tout ce qui avait rapport à ses sentiments personnels paraissait enseveli au plus profond de son âme. Un jour, M. Horner envoya dire qu'il était trop indisposé pour venir au château faire sa besogne habituelle. Il écrivit en même temps à Miss Galindo pour lui donner différents ordres, et ajouta qu'il serait le lendemain matin à son cabinet. Mais le lendemain matin, il était mort. Ce fut la vieille fille qui l'annonça à Lady Ludlow. Elle sanglotait en parlant, mais sa seigneurie ne pleura pas. C'était pour elle une impossibilité physique. Elle avait répandu toutes ses larmes et ses yeux n'en avaient plus. D'ailleurs, elle était bien moins étonnée de la mort de M. Horner qu'elle n'était surprise d'être encore de ce monde. Il lui semblait naturel qu'un serviteur aussi dévoué ne pût survivre au dernier membre de la famille à laquelle il avait toujours appartenu. M. Horner
était en effet un bien loyal serviteur. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse en trouver d'aussi fidèle. Peut-être ce que je dis là n'est-il après tout qu'une imagination de vieille femme. Lorsque le testament du régisseur fut ouvert, on découvrit que, peu de jours après la chute d'Henry Gregson, l'intendant avait légué à celui-ci tout ce qu'il possédait, environ 3 000 livres, en priant son exécuteur testamentaire de veiller à ce qu'on enseignât à l'enfant certaines choses pour lesquelles ce dernier paraissait avoir une aptitude spéciale. Cette recommandation était accompagnée d'une phrase où M. Horner établissait qu'Henri, devenu infirme, ne pouvait plus gagner sa vie par une profession manuelle, ainsi que le désirait une noble dame pour laquelle le testateur avait un profond respect et dont les vœux étaient pour lui des ordres. Mais, par un codicille autographe, écrit d'une main tremblante et postérieure à la mort du comte, M. Horner avait révoqué la donation qu'il avait faite à Henri et ne lui laissait plus que 200 livres, confiés à M. Gray, pour être employés de la façon la plus avantageuse au petit Gregson. Le régisseur léguait tout le reste de ses épargnes à Lady Ludlow, afin de concourir autant que possible au remboursement de l'hypothèque dont il avait été si malheureux pendant sa vie. Je ne me sers peut-être pas des termes qu'emploierait un homme de loi, c'est par Miss Galindo que j'ai connu toute cette affaire, et il est possible qu'elle-même se trompât d'expression, bien qu'à vrai dire, elle possédât une lucidité d'esprit qui ne tarda pas à lui gagner l'estime de M. Smithson, le procureur de Lady Ludlow. Celui-ci la connaissait de réputation, il l'avait rencontrée plusieurs fois, mais il ne s'attendait pas à l'avoir installée au château en qualité de commis du régisseur, et il la traita d'abord avec une politesse dédaigneuse. Mais c'était à la fois une femme de tête et de sens que notre vieille demoiselle, et qui savait se refuser toute bizarrerie de parole et d'action lorsque bon lui semblait. Elle se présenta donc au procureur dans sa robe des dimanches, ne dit pas un mot de plus qu'il n'était nécessaire, et Dieu sait que naturellement elle aimait à causer. Ses livres étaient parfaitement tenus, ses renseignements précis et fidèles. Je me souviens de la joie amusante que lui causait la victoire qu'elle avait remportée sur l'opinion préconçue de M. Smithson et sur le mépris qu'inspirait au juriste une femme resplendissant les fonctions de comptable. « Laissez donc, me dit-elle un jour qu'elle était venue s'asseoir auprès de moi. C'est un brave homme, un homme de sens, et je ne doute pas qu'il soit fort bon légiste. » Mais il n'est pas capable de sonder les profondeurs d'un esprit féminin. Je suis convaincu d'une chose, c'est que de retour à Warwick, il n'écoutera plus les gens qui lui avaient fait accroire que j'étais à moitié folle. Je vous assure qu'il en était persuadé. Il me l'a prouvé 100 fois plus ouvertement que ne l'a jamais fait mon ancien patron. S'il a bien voulu condescendre à écouter les éclaircissements que je lui ai donnés et à consulter mes livres, il est évident que c'était pour plaire à Milady. « Après tout, se disait-il, on peut pardonner à une femme la fantaisie de se croire bonne à quelque chose. C'est une idée qui peut la préserver du mal. Je le pénètre à merveille, et je puis dire, grâce à Dieu, qu'il ne se doute pas de ce qu'il y a dans mon esprit. Toutes les fois que je veux atteindre un but, je me conduis en conséquence. Voilà un homme qui suppose qu'on est une femme respectable dès qu'on porte une robe de soie noire. J'ai mis la robe qui devait me donner un brevet de respectabilité. » Il est persuadé qu'une femme ne peut pas écrire droit et qu'elle a besoin d'un homme pour savoir que 2 et 2 font 4. J'ai précisément l'écriture la plus régulière qu'on puisse voir et je possède mon barème sur le bout du doigt. Beaucoup mieux que lui, je vous assure. Mais mon plus grand triomphe est d'avoir su retenir ma langue. Il aurait eu mauvaise opinion de mon sexe, en dépit de mon écriture, de mon calcul et de ma robe de soie noire, si je lui avais parlé sans qu'il m'eût interrogé d'abord. J'ai donc renfermé dans mon sein plus de choses de sens depuis 10 jours que j'en ai débité pendant le reste de ma vie. J'ai été si brève, si brusque, si horriblement ennuyeuse que je vous réponds que mon procureur me croit digne d'être un homme. Mais il faut, ma chère, que je retourne auprès de lui. Ainsi donc, je vous dis au revoir, ainsi qu'à la conversation. » Il est possible que le procureur de Milady fût satisfait de Miss Galindo. C'était alors la seule chose dont il ne fut pas mécontent. Je ne sais plus qui nous avait dit que les affaires allaient mal, toutefois personne dans la maison ne paraissait en douter. Ce n'est qu'après sa mort que nous sentîmes la confiance que nous inspirait le silencieux régisseur. Lady Ludlow aimait ainsi que nous l'avons dit, à gouverner ses domaines et à décider les questions qui surgissaient entre elle et ses tenanciers, mais elle finissait en général par suivre les conseils de M. Horner, qui n'était pas toujours de son avis. Elle commençait par dire clairement sa volonté et s'empressait de donner les ordres pour que l'on fît ce qu'elle désirait. Si M. Horner approuvait sa manière de voir, il saluait et se mettait en mesure de lui obéir immédiatement. Si au contraire, il ne partageait pas l'opinion de sa seigneurie, il saluait encore, mais il tardait si longtemps à exécuter les ordres qu'il avait reçus que Milady finissait par lui dire « Eh bien, monsieur Horner, qu'avez-vous à m'opposer ?» Car elle comprenait son silence tout aussi bien que s'il eût exprimé son opinion. Par malheur, au moment où l'on était pressé par le besoin d'argent, monsieur Horner avait perdu sa femme. Le chagrin l'avait affaibli au point de lui faire négliger ses propres affaires. Et malgré sa bonne volonté, celle de Lady Ludlow en souffrir nécessairement, d'autant plus que son ancien commis, chargé d'années, était tout à fait incapable de suppléer à l'énergie qui lui manquait maintenant. Chaque jour, M. Smithson paraissait plus contrarié. Comme tous les individus qu'employait Lady Ludlow, il existait, du moins autant que je puis le croire, quelques liens héréditaires entre lui et la famille. Depuis que les Smithson étaient dans la procédure, ils avaient toujours été procureurs des Hanbury. On avait recours à eux dans toutes les grandes occasions, et personne ne connaissait mieux tout ce qui avait rapport à cette famille, aujourd'hui presque éteinte, jadis nombreuse et disséminée dans toutes les possessions anglaises. Tant que le chef des Hanbury avait été un homme, le procureur avait agi d'après ses ordres et n'avait donné des conseils que lorsqu'on lui en demandait. Mais il avait changé de position le jour mémorable où sa seigneurie avait contracté cet emprunt désastreux. L'homme de loi avait cru devoir protester contre cette mesure. Milady avait été froissée de la remontrance et une certaine froideur tacite avait existé depuis lors entre sa seigneurie et le père du Smithson actuel. Celui-ci, j'en étais vraiment désolé, trouvait fort mauvais que M. Horner eût laissé les terres en aussi mauvais état, et que la plupart des fermages offrissent un arriéré considérable. Il avait trop de délicatesse pour exprimer son opinion à l'égard du défunt, mais Lady Ludlow était assez pénétrante pour lire dans la pensée du juriste, et lui dit tranquillement que c'était elle qui avait empêché son régisseur de prendre certaines mesures peu en harmonie avec le sentiment héréditaire qu'elle avait toujours eu des rapports qui doivent exister entre maîtres et tenanciers. Quant aux besoins d'argent, c'était un malheur qu'elle pouvait réparer, disait-elle, en mettant plus d'économie dans ses propres dépenses, économie qui pourrait bien monter à quelques 50 livres. Mais dès que le procureur parla de certaines réformes qui touchaient au bien-être des autres ou à la splendeur nécessaire à la grande famille des Hanbury, Lady Ludlow fut inflexible. Des 40 domestiques dont sa maison était composée, il y en avait au moins 20 qui n'étaient plus capables de remplir leurs devoirs. On pouvait, d'après les calculs de M. Smithson, épargner plusieurs centaines de livres, en mettant à la retraite ses bons vieux serviteurs. Mais sa seigneurie ne voulut pas même en entendre parler. Non plus que de nous rendre à nos parents, chez qui M. Smithson insistait pour qu'on nous renvoyât. « S'il m'est impossible de remplir mes engagements, » répliqua Lady Ludlow, il me faudra bien renoncer dans l'avenir à une chose qui a toujours été pour moi une source de vive satisfaction. Mais je suis lié envers ces jeunes filles qui m'accordent la faveur de vouloir bien demeurer chez moi, et je ne peux pas, vous le comprenez, monsieur Smithson, rétracter la parole que j'ai donnée à leur famille. » Elle entra en disant ces mots dans la pièce où je me tenais habituellement. Le procureur, dont elle était accompagnée, se douta bien que j'avais dû entendre ce qu'il avait dit à notre égard, et en éprouva une certaine émotion. Quant à Milady, son visage conserva toute sa sérénité. La terre entière pouvait surprendre ses paroles, toujours bienveillantes et pures, sans qu'elle éprouvât la moindre crainte au sujet de l'interprétation qu'on pouvait leur donner. Elle s'approcha du lit de repos où j'étais étendu, me baisa au front, et chercha ensuite les papiers dont elle avait besoin.
« J'ai parcouru hier matin les fermes de Collington, Milady, » continua l'homme de loi. Et j'ai été vivement peiné, je l'avoue, de la triste condition des terres. Tout ce qui n'est pas en friche est littéralement épuisé par les récoltes successives de froment qu'on y a faites, et pas un atome d'engrais depuis plusieurs années. La chose est d'autant plus frappante qu'elle forme le plus grand contraste avec les champs voisins. Là, une rotation intelligente, des palissades en bon état, des moutons parqués sur des terres où ils mangent des navets, en un mot, tout ce qu'on peut désirer en fait d'agriculture.
Quelle est cette ferme ? Demanda Lady Ludlow.
Je suis fâché d'avoir à le dire, mais elle n'appartient pas à votre seigneurie. Je l'avais espéré tout d'abord, et je voulus m'en assurer. Un homme à l'air grotesque, montant à cheval comme un tailleur, et qui surveillait ses ouvriers avec une paire d'yeux les plus fins et les plus perçants qu'on puisse voir, répondit à ma question que cette ferme était à lui. Je ne pouvais pas lui demander son nom, mais j'appris, en causant, qu'il avait gagné quelque fortune dans le commerce, avait acheté 500 acres de terre et consacrait tous ses instants à les faire valoir après être allé à Holkham, à Woburn et dans tous les environs pour y apprendre les meilleurs procédés agricoles.
Ce doit être Brooke, le dissident, l'ancien boulanger de Birmingham, répliqua sa seigneurie avec une excessive froideur. Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps, monsieur Smithson, ajouta-t-elle. Voici les lettres que vous désirez consulter.
Mais si Lady Ludlow avait eu l'intention de congédier l'homme de loi, ou seulement de lui faire changer de conversation, elle s'était bien trompée. Monsieur Smithson jeta les yeux sur les papiers que Milady lui présentait, et reprenant l'entretien où il l'avait laissé.
J'en ai conclu, dit-il, que si votre seigneurie avait un pareil homme pour gérer ses affaires, la culture de ses domaines et la rentrée des fermages ne laisseraient rien à désirer. Je ne crois pas impossible de déterminer M. Brooke à prendre la place de ce pauvre M. Horner. Il me sera facile de lui en parler, car nous sommes devenus fort bons amis en faisant ensemble une collation qu'il m'avait prié de partager.
Lady Ludlow ne quitta pas des yeux la figure du procureur tant que celui-ci débita les paroles précédentes.
« Vous êtes bien bon, monsieur Smithson, répondit-elle après quelques instants de silence. « Mais ne vous donnez pas la peine de me chercher un intendant. J'écrirai ce soir à un ancien ami de l'un de mes fils, au capitaine James, qui vient d'être sérieusement blessé à Trafalgar, et je lui demanderai de me faire l'honneur de vouloir bien accepter la position qu'avait ici monsieur Horner.
Un marin pour administrer les domaines de votre seigneurie ?
Mais certainement, s'il veut être assez bon pour cela, je lui en serai fort reconnaissante. On m'a dit qu'il avait été forcé de donner sa démission par suite de la gravité de ses blessures et que le docteur lui a spécialement recommandé le séjour de la campagne. J'espère être assez heureuse pour obtenir qu'il vienne ici, d'autant plus qu'il a peu de fortune et qu'ayant pris sa retraite, il doit se trouver gêné.
Un marin, un invalide.
Vous trouvez que la faveur que j'ambitionne est trop grande ?
Poursuivit Lady Ludlow. Était-ce par malice ou par simplicité qu'elle interprétait de la sorte les paroles du procureur, c'est ce que je ne saurais dire.
Mais ce n'est pas un capitaine de vaisseau, ajouta-t-elle. C'est un simple commandant de frégate, et sa pension est très peu de chose. D'ailleurs, en lui offrant l'air de la campagne et une occupation salutaire, il est possible que je contribue à lui faire recouvrer la santé.
Une occupation ! Mais je le demande à votre seigneurie. Quelle connaissance un officier de marine peut-il avoir en agriculture ? Vos fermiers se moqueront de lui.
Mes fermiers, j'en ai la certitude, respecteront la personne qui ne m'aura plus d'investir de mon autorité. Le capitaine James a l'expérience du commandement. C'est un homme de grand sens et d'une habileté pratique fort remarquable. Chacun lui rend cette justice. D'ailleurs, quelle que puisse être la nature de ses facultés, la chose ne regarde que lui et moi, et je m'estimerai fort heureuse s'il condescend à ma demande.
Il n'y avait plus moyen de faire d'objection après des paroles aussi catégoriques, et M. Smithson fut réduit au silence. J'avais entendu dire plusieurs fois à Milady combien le capitaine James avait été bon pour son fils Urian, lorsque celui-ci était entré dans la marine, et je me rappelais que sa seigneurie avait manifesté le désir de lui en prouver sa reconnaissance. J'avoue malgré cela que j'étais de l'avis du procureur. Et je trouvais, comme lui, qu'il était assez bizarre de confier l'administration d'une terre à un marin. M. Smithson, comme on peut le supposer, n'en reparla plus à sa seigneurie, mais il ne put s'empêcher de s'en entretenir avec Miss Galindo, qui ne manquait pas de me tenir au courant de tout ce que l'on faisait et pensait au dehors. Elle s'était éprise pour moi d'un goût très vif, parce que, disait-elle, je parlais si agréablement. Je crois plutôt que ce qui l'avait séduite, c'est que je l'écoutais si bien.
« Vous savez la nouvelle ?» me dit un jour la vieille fille. « Nous allons avoir le capitaine James, un marin, porteur d'une jambe de bois. Qu'aurait dit mon cher patron s'il avait pu deviner qui le remplacerait ? J'ai souvent pensé, ma chère, que l'arrivée du facteur, m'apportant une lettre, serait l'un des plaisirs qui me manquerait au paradis. Mais ce bon monsieur Horner est bien heureux de n'être plus à portée de savoir ce qui se passe. Il apprendrait sans cela que monsieur Smithson est allé faire des avances à ce boulanger de Birmingham, et que c'est un capitaine de frégate qui vient prendre sa place. Voyez-vous d'ici notre officier de marine surveiller ses ouvriers au moyen d'une lunette d'approche et planter sa jambe de bois dans un bourbier d'où il lui est impossible de sortir. Assurément, ce n'est pas moi qui lui tendrai la main. Oh, si, dit-elle en se reprenant, je le ferai pour Milady. Mais vous êtes bien sûr que le capitaine ait une jambe de bois ? Demandai-je à Miss Galindo. Assurément, presque tous les marins sont blessés à la jambe. Allez à Greenwich, vous y verrez 20 jambes de bois pour une manche vide. Mais notre capitaine eut-il 4 paires de jambes pour une, qu'il n'en saurait pas davantage sur l'aménagement des terres. Je déclare que c'est un impudent s'il abuse de la bonté de Milady au point de venir prendre une position qu'il est incapable de remplir. 3 semaines après, la voiture n'en alla pas moins au-devant du capitaine James, comme elle était venue à ma rencontre quelques années auparavant. On avait dit tant de choses sur le nouveau régisseur, on avait tant parlé de son arrivée que nous étions tous fort curieux de le connaître. Mais avant de vous décrire notre officier de marine, il faut que je vous apprenne une chose qui n'est pas moins importante. Croiriez-vous que Lady Ludlow et Henry Gregson étaient devenus bons amis? C'était, j'imagine, par respect pour la mémoire de M. Horner. Cependant, cette supposition est toute gratuite, car sa seigneurie n'a jamais dit une parole qui pût le donner à penser. Toujours est-il qu'un soir, Lady Ludlow envoya prier le petit Gregson de venir lui parler, si toutefois il était assez fort pour se rendre chez elle, et que le lendemain matin, on introduisit le pauvre garçon dans la pièce où jadis nous l'avons vu dans une situation si fâcheuse. Dès que Milady aperçut le pauvre convalescent dont la figure était pâle et qui se tenait debout appuyé sur sa béquille, elle ordonna au valet de chambre d'avancer un tabouret et, d'une voix pleine de bonté, pria Henry de s'asseoir. Il est possible que la pâleur de son visage donnât au petit Gregson plus de distinction qu'il en avait autrefois, mais j'ai toujours pensé qu'il était susceptible de recevoir les bonnes impressions et que les allures graves et dignes de l'ancien intendant, les manières calmes et douces de M. Gray, l'avaient peu à peu transformé. Puis l'abattement causé par la souffrance physique et la douleur que nous ressentons de la mort d'un être qui nous est cher produisent quelquefois, tout au moins pendant qu'on les éprouve, le même effet que l'éducation. Il est alors impossible d'élever la voix et de s'emporter. Nous n'avons plus pour les intérêts d'ici-bas cette ardeur qui éveille tous les côtés vulgaires de notre nature et le sentiment d'un monde supérieur et invisible, vers lequel nous élève la pensée de l'être dont nous regrettons la perte, nous rend plus calmes, plus indifférents à l'égard des petitesses et des misères de cette vie. C'est du moins la réponse que j'obtins de M. Gray lorsque je lui dis combien nous étions étonnés de l'amélioration qui se remarquait dans la tenue et les manières d'Henry Gregson. Lady Ludlow chercha pendant si longtemps la meilleure façon d'exprimer ce qu'elle voulait dire que le pauvre Henry commençait à s'effrayer de son silence. Quelques mois auparavant, j'en aurais été moi-même surprise, mais depuis la mort de son fils, Milady était bien changée. Elle paraissait plus incertaine, plus défiante d'elle-même pour ainsi dire. Elle prit enfin la parole et je crois être sûr qu'il y avait des larmes dans ses yeux. « Mon pauvre enfant, dit-elle, vous avez bien manqué de mourir depuis que je ne vous ai vu. » La seule chose que le pauvre garçon eut à répondre était un oui, pur et simple, et le silence recommença. « Vous avez perdu un bien excellent ami dans M. Horner, reprit Lady Ludlow en faisant un effort sur elle-même. Les lèvres d'Henri s'agitèrent convulsivement et je ne distinguais pas les mots qu'elles firent entendre. « Moi aussi, » continua Lady Ludlow, « il nous était bien attaché à tous les deux. Il avait d'abord eu le désir de vous prouver son affection d'une manière plus évidente qu'il ne l'a faite ensuite. Monsieur Gray a dû vous annoncer que vous êtes l'un des légataires de notre généreux ami. » Aucun signe de joie ne parut sur le visage du pauvre enfant, à qui la somme léguée devait néanmoins sembler une véritable fortune. « Je sais qu'il m'a laissé de l'argent, » répondit-il avec indifférence. « Vous en connaissez le chiffre, 200 livres. »« J'aimerais mieux qu'il ne fût pas mort, Milady, » s'écria le petit Gregson en sanglotant de manière à faire supposer que son cœur allait se rompre. « Je vous crois, mon petit ami, » répliqua Lady Ludlow. Nous voudrions tous que nos morts fussent vivants, et rien dans la fortune ne peut nous faire oublier leur perte. Mais vous savez, Monsieur Gray a dû vous le dire, que c'est Dieu qui fixe l'heure à laquelle nous devons quitter la vie. Monsieur Horner était un homme juste et bon, qui s'est montré pour vous, comme pour moi, affectueux et dévoué. Peut-être ne savez-vous pas qu'il avait eu d'abord l'intention de vous faire un don beaucoup plus considérable. Vous deviez posséder tout son avoir, à l'exception d'un legs de peu d'importance qu'il destinait à son ancien clerc. Morrison. Mais il savait que ce domaine, qui appartient à ma famille depuis plus de 600 ans, était grévé d'une somme qu'il me serait difficile de payer, et il sentait combien il est triste de voir tomber un ancien patrimoine comme celui-ci aux mains des gens qui sont mes créanciers. Vous comprenez cela, mon petit homme, ajouta Lady Ludlow en interrogeant du regard la figure de son jeune auditeur. Celui-ci avait arrêté ses larmes et faisait tous ses efforts pour saisir le sens des paroles de Milady. Je ne suis pas sûr qu'il y parvint complètement. Toutefois, il avait trop d'intérêt à connaître la suite de cette affaire pour suspendre l'entretien. Il fit un signe affirmatif et Lady Ludlow continua. Monsieur Horner, poursuivit-elle, a donc repris la somme qu'il vous avait léguée pour en disposer en ma faveur, avec l'intention de me faciliter le paiement de la dette qui pèse sur le domaine d'Enbury. Cette somme doit s'augmenter chaque année des intérêts qu'elle aura produits. J'épargnerai de mon côté le plus possible afin d'arriver à l'acquittement de l'hypothèque, et je mourrai tranquille si je peux laisser le domaine de mes pères dégagé de toute créance. Mais je ne mourrai pas heureuse en pensant à vous, mon pauvre enfant. Je ne sais pas si la fortune et les honneurs sont une bonne chose ici-bas, mais Dieu a jugé convenable de placer quelques-uns d'entre nous dans certaines positions, et notre devoir est alors de rester ferme, au poste, comme le fait un soldat. Les intentions de notre pauvre ami n'en seront pas moins exécutées. L'argent vous appartient, puisque c'est à vous qu'il l'avait destiné d'abord. Mais je vous l'emprunterai, Henry Gregson, et je l'emploierai à l'acquittement de cette dette qui a été l'un des chagrins de ce bon monsieur Horner. Je paierai l'intérêt de la somme que je vous emprunte à monsieur Gray, qui doit agir auprès de vous en qualité de tuteur. C'est lui qui désignera l'usage que l'on devra faire du principal, quand celui-ci pourra vous être rendu. Je crois qu'il est maintenant fort convenable que vous receviez de l'éducation. C'est un piège de plus qui s'ajoute à celui que vient vous tendre la fortune. Mais prenez courage, Henry. On peut faire de la science et de l'argent un bon emploi quand on s'arme par la prière contre les tentations qu'ils entraînent à leur suite. Henry garda le silence, bien qu'il comprît, j'en suis sûr, tout ce qu'il venait d'entendre, et sa seigneurie, voulant savoir ce qu'il avait au fond du cœur, lui demanda ce qu'il ferait de son argent s'il en avait une partie entre les mains. La question était simple, et la réponse arriva promptement aux lèvres du petit Gregson. Je ferai bâtir pour mon père un cottage, où il y aurait un escalier dedans, et puis pour Monsieur Gray, une belle maison d'école, dit-il avec assurance. Mon père a si envie que Monsieur Gray soit heureux. Il a charroyé toutes les pierres dans un coin de la ferme de Maître Hale. C'est Monsieur Gray qui l'a payé. Tout est prêt pour bâtir. Mon père dit comme cela qu'il travaillerait nuit et jour, et qu'avec mon petit frère Tom, qui lui porterait le mortier, ce serait bientôt fini, si Monsieur Gray voulait seulement lui permettre de commencer plutôt que de se chagriner, comme il le fait de ce que personne ne lui prête assistance. Henry Gregson ignorait évidemment la part que Milady avait dans cette affaire. Si j'avais un petit brin de mon argent, poursuivit-il, j'achèterais un coin de terre à M. Brooke. Il en a justement une petite pièce à vendre en tournant du sentier de Nigel, et je le donnerai à M. Gray. Puisque votre seigneurie pense que l'on peut bien m'instruire, peut-être que plus tard je deviendrai maître d'école. Vous avez un bon cœur, mon enfant, répliqua Lady Ludlow, mais avant de mettre à exécution le projet dont vous parlez, il est nécessaire de réfléchir à bien des choses que vous ne pourriez comprendre. Cependant, on essaiera. « L'école, Milady, » m'écriai-je, supposant qu'elle se trompait. « Oui, chère petite, » répondit-elle. « J'en ferai l'essai pour l'amour de Monsieur Horner, pour l'amour de notre pasteur et pour celui de ce brave enfant. Priez Monsieur Gray, » dit-elle à Henri, « de venir me parler ce soir à propos du terrain. Il est inutile de s'adresser à un dissident, et ne manquez pas de dire à votre père qu'il sera chargé de la bâtisse et que votre petit frère Tom lui portera le mortier. » « Et que je serai maître d'école ? » demanda vivement Henry. « Nous verrons cela, » répliqua Lady Ludlow, qui s'amusait de l'ardeur juvénile du petit Gregson. « il se passera quelque temps avant que notre projet puisse être réalisé. » Mais revenons au capitaine, le nouveau régisseur dont Miss Galindo m'entretint la première. « Il n'a pas plus de 30 ans, me dit la vieille fille, mais voilà forcé de plier bagage. Ça serait de la dernière inconvenance que de rester sous ses ordres en qualité de commis. C'était fort bien du temps de mon vieux patron. Mais un jeune homme qui n'a pas de femme et qui n'est même pas veuf, que ne dirait-on pas sur mon compte? Il me regarde du coin de l'œil. J'en fais autant à son égard, et je devine sa pensée. Il a peur que je ne l'épouse. Mais il peut être bien tranquille. Je n'en ai pas la moindre envie. Monsieur Smithone a déjà recommandé quelqu'un à Lady Ludlow pour me remplacer. Milady préférerait que je restasse. Mais c'est tout à fait impossible. Les convenances s'y opposent. « Comment est le capitaine ? » lui demandai-je. « Il n'a rien de particulier. C'est un petit homme aux cheveux noirs, au teint brûlé par le soleil. Je n'en sais pas davantage, la bienséance ne m'ayant pas permis de le regarder avec attention. Mais maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes bonnets de nuit. J'aurais été désolé qu'une autre se fût chargée de les faire. J'ai un si joli modèle. » Miss Galindo, voulant enfin résigner ses fonctions, s'en fut annoncer à Milady qu'elle abandonnerait la plume pour reprendre l'aiguille. C'est alors qu'un malentendu, qui avait eu lieu de part et d'autre, souleva entre ces deux dames une discussion assez étrange. Miss Galindo s'était imaginé que sa seigneurie lui avait demandé une faveur en la priant de tenir ses écritures, et elle avait consenti à le faire sans même supposer qu'elle recevait pour cela une rémunération quelconque. Je l'avais entendu plus d'une fois regretter de voir les commandes qui lui étaient faites passer en d'autres mains, depuis qu'elle consacrait à ses registres le temps précieux qu'elle eût donné à la couture. Mais elle n'en avait jamais parlé devant Milady, et la vieille Miss faisait courir sa plume aussi longtemps qu'il était nécessaire, avec un entrain qui ne se démentait pas. Sa seigneurie fut donc excessivement contrariée lorsqu'elle vit que la vieille fille avait cru ne pas recevoir de salaire. Je suppose qu'elle avait mis tant de réserves en traitant cette question délicate qu'il avait été impossible à Miss Galindo de comprendre ses intentions. Quant à cette dernière, elle fut profondément blessée de l'insistance que mettait Milady à la payer d'un service qu'elle avait rendu de si bon cœur. « Non, ma chère Lady, répliqua-t-elle, non, non, fâchez-vous si vous voulez, mais n'offrez pas de me payer. Je vous en conjure. Souvenez-vous de Mark Gibson et de ce que vous avez été pour moi à cette époque. Je ne vous cacherai pas que j'avais besoin d'argent, et cela pour un dessein particulier. Mais quand j'ai découvert que je pouvais vous rendre service, et je vous bénis de me l'avoir demandé, j'ai renoncé au plan que j'avais fait. Je me suis décidé à autre chose. Tout est réglé maintenant. Bessie va sortir de pension et viendra demeurer chez moi. Je vous en supplie, ne me parlez plus d'argent. Vous ne savez pas combien je suis heureuse d'avoir pu vous être utile. N'est-ce pas, Marguerite Dawson? Ne m'avez-vous pas entendu dire plus d'une fois que je me couperais volontiers la main pour Milady? Suis-je donc une bûche ou un rocher pour ne pas me souvenir d'un bienfait? Je suis si contente d'avoir travaillé pour vous, Lady Ludlow. Et puisqu'il est décidé que Bessie viendra chez moi, je n'ai plus tant besoin d'argent. Pauvre créature! Personne ne la connaît et ne s'intéresse à elle. Pauvre innocente! Comme si jamais elle avait rien fait de mal.
Chère Miss Galindo, répliqua Milady, n'en parlons pas davantage. C'est une affaire réglée. Je croyais seulement que c'était une chose convenue entre nous. Vous avez accepté dernièrement encore la somme qui vous était due pour la façon d'une douzaine de peignoirs.
Oui, Milady. Mais ce n'était pas une besogne confidentielle, et je suis fière d'avoir été choisie par vous pour une mission de confiance.
Mais quelle est cette Bessie dont vous parliez tout à l'heure? Demanda Lady Ludlow. Je ne devine pas à quelle famille elle appartient, ni pourquoi elle vient demeurer chez vous. Soyez assez bonne à votre tour, chère Miss, pour m'honorer d'une confidence.